D'ici 115, un empire inaltéré. Bienvenue sur le second de quatre podcasts téléchargeables à partir de www.fréquencemutine.net. Ces podcasts reprennent l'intégralité de l'interview menée avec le groupe Mediavolo pour la sortie de leur album Unaltered Empire. L'interview a été réalisée dans le cadre de l'émission D'ici tous les chats sont gris, le mercredi 5 novembre 2008 sur Fréquence Mutine 103.8 FM à Brest.
At Last I Am Free, c'était Robert Wyatt et Elizabeth Fraser. Géraldine, pourquoi avoir choisi ce titre ?
C'est une découverte que j'ai faite très récemment, alors que c'est finalement une collaboration qui a eu lieu il y a maintenant quelques années. Hein. C'est pas récent, mais c'est un ami, c'est Marc. Alors s'il nous écoute, il sera content, hein, parce que vraiment, je le remercie du fond du cœur de m'avoir fait découvrir ce titre. Il nous appelle un jour à la maison, il dit « Oh là là, j'ai découvert un bijou, j'ai découvert des titres inédits de Liz Fraser là, qui a collaboré avec des gens. Là. Elle a fait un titre avec Robert Wyatt, je vous envoie ça. » Alors, il nous l'envoie en MP3 et oh là là, moi j'ai eu un coup de foudre pour ce morceau qui, et en plus vraiment ça a été un coup de foudre d'emblée avant même de l'écouter, parce que je me suis dit quoi, avec Robert Wyatt? Alors c'était complètement improbable. Robert Wyatt en fait est un artiste que j'aime depuis très longtemps, hein, que j'ai découvert grâce à Halloween, un groupe de rock progressif avec lequel j'ai joué pendant plusieurs années, hein, de 94 jusqu'en 2000. Le clavier du groupe, en fait, Gilles Copin, m'avait fait découvrir Robert Wyatt, et j'avais vraiment beaucoup aimé cet artiste-là, je m'étais intéressée, et il y a un album, bon, l'album phare, hein, ceux qui connaissent Robert Wyatt sauront de quoi je parle, Rock Bottom, c'est la référence concernant Robert Wyatt et sa carrière, et donc Robotham, bon, je l'ai écouté en boucle pendant des mois, je le connais par cœur cet album-là. Et alors vraiment, là, la combinaison de Robert Wyatt, qui est un artiste quand même qui m'a vraiment marqué, plus Liz Fraser, qui est pareil, une artiste qui a beaucoup d'importance finalement dans mon parcours là de mélomane, parce que ben on apprend constamment, on découvre constamment des gens, des musiques, des influences, voilà. Ces deux artistes-là qui se combinent tous les deux pour faire quelque chose, c'était certainement, j'ai toujours pensé que ça serait loin d'être une collaboration qu'on aurait pu imaginer, quoi. Et en plus, à l'écoute du morceau après, oh là là.
C'était un cadeau, en fait.
Ah ouais, un cadeau, mais extraordinaire. Je trouve ça, j'adore ce morceau. C'est quelque chose qui, ah, j'ai des frissons à chaque fois que je l'écoute, je le trouve magnifique. Voilà.
D'accord. On va continuer un petit peu l'exploration de l'album. Il y a un titre sur cet album qui s'appelle Dr. Quayle. Mm-hmm. Qui est Dr. Quayle et, voilà, qui est Dr. Quayle?
Alors, Dr. Quayle est un personnage qui interagit avec notre personnage principal. Voilà. En fait, comme on l'a dit tout à l'heure, on a toujours un personnage à qui il arrive des choses, qui est le personnage central en fait d'une histoire qu'on souhaite raconter au sein de l'album à travers quelques morceaux. Et Dr. Quayle est un personnage secondaire. Qui va traverser la vie de ce personnage, va interagir avec lui, et pas forcément pour le meilleur. Mais bon, Dr. Quayle, pourquoi docteur ?
D'accord.
Bah en fait, bon, l'action se situerait fin du 19e, début du 20e, on ne sait pas trop en tout cas,
ouais.
Mais à une époque où le charlatanisme fait rage, où on peut se proclamer docteur... et être un absolu imposteur, Donc, Dr. Quayle, c'est ça. C'est un imposteur qui va finalement vampiriser notre personnage, lui absorber toute son énergie, toute sa substance, et qui va vraiment faire, bien sûr, tout le contraire de l'aider, quoi. C'est qui va l'isoler encore plus, parce que notre personnage en fait se retrouve isolé. Alors on verra sans doute plus tard pourquoi, mais là c'est certainement la pire chose qui pouvait lui arriver, c'est de rencontrer Dr. Quayle, quoi. D'accord. Voilà.
Justement, quand tu parlais tout à l'heure de référence au passé, c'est le seul titre en fait où c'est explicité clairement. Oui. 1905, hein, avec un endroit assez précis, à Bay Road. on ne voit pas pourquoi. Si, en fait. Pourquoi cette référence au passé? Est-ce que on peut dire que si on peut pas parler d'action dans l'album, tout l'album se déroule à cette période-là, ou est-ce que c'est juste utiliser une période parce qu'elle évoque des choses?
En fait, non. Après, on laisse à l'auditeur le soin de ressentir, de garder ce qu'il a envie de garder. C'est-à-dire que sur ce morceau-là, oui, ça se passe en 1905, mais c'est pas évident que tous les autres soient situés à la même époque. Finalement, on a un personnage central, mais il peut peut-être évoluer dans des époques différentes. Il y a toujours un peu de surréalisme. Hein. Il y a toujours un petit peu de surréalisme en fait dans nos histoires, les époques en fait peuvent effectivement se croiser, on peut tout mélanger, il y a pas de règles, donc c'est pas gênant. En tout cas, ce morceau-là effectivement se situe sur 1905. Alors pourquoi Abbey Road? Abbey Road, pourquoi? Parce que, en fait, on a une fascination pour le 19e et puis pour la révolution industrielle, un petit peu cette période finalement qui est à l'origine du monde actuel. On est un peu resté bloqué là-dessus parce que c'est sans doute quelque chose qui pour nous a une signification importante dans notre histoire. Mais on a aussi une fascination pour les Beatles. c'est simplement...
C'était donc ça.
Voilà. En fait, ce sont des petits clins d'œil. Hein. Dans ce morceau-là, ce sont des clins d'œil. Parce que, en plus, on a... Bon, c'est vrai que je situe ça au numéro 9. Bon, hein. C'est un peu... Je dirais que voilà, tous les pontifs... Hein, poncifs, pardon, pour les pontifs, faut pas exagérer, Géraldine. Tous les poncifs sont là, voilà.
Tous les pontifs souverains.
Tous les pontifs souverains. Tous les poncifs sont là, voilà. Pour ceux qui aiment les Beatles, je veux dire, la référence est même à la limite trop évidente. Mais c'était une manière de glisser gentiment comme ça, quelque chose de. Voilà.
D'accord. Un membre du groupe nous a rejoint. Bonsoir, Jacques.
Bonsoir. Je sais pas si mon micro marche.
Si.
Tu ne t'entends pas?
Non.
Ah,
pas de retour.
D'accord.
Mais c'est pas grave.
Bon.
Ouais, désolé, hein, je viens en retard. Je reviens d'un cours que j'ai dû écourter. Mais bon, voilà.
C'est pour la bonne cause.
Ah oui, je voulais surtout pas rater ton émission. J'avais vraiment adoré l'année dernière l'ambiance, le côté très zen.
C'est, on est reparti sur la même chose.
Ah, c'est parfait.
Ouais, donc on va continuer un petit peu. On reviendra un petit peu sur les titres de l'album tout à l'heure. Là, j'aimerais qu'on parle un peu des concerts que vous avez réalisés cette année déjà pour la promotion de l'album précédent. Mm-hmm. Combien de concerts vous faites par an?
Malheureusement, pas suffisamment.
Ouais.
Ouais. En fait, en période de promotion, quand on sort un album, par exemple, bon, il va y en avoir pas mal. Si on compte les showcases et puis les concerts à 5 sur scène, bon, on tourne quand même autour d'une 25.
D'accord.
Voilà, 20-25.
C'est pas mal quand même.
En période de promotion, c'est bien. Mais par contre, c'est vrai qu'ensuite...
Quand il n'y a plus d'actualité, après c'est difficile après de pouvoir continuer à faire de la scène.
Okay. Et vous avez déjà, dans votre carrière, fait appel à des tourneurs ou...
Oui.
Ouais.
Oui, on a essayé, mais
sans succès.
Très difficile à intégrer.
D'accord.
Mm-hmm. Disons qu'il y a peu de tourneurs sur le territoire français, mm-hmm. pour un nombre de formations
énorme. Et en fait, ils sont inondés de CD, de propositions. Et du coup, on n'est qu'un disque parmi tant d'autres. Voilà. Et donc, voilà, c'est très difficile, quoi. Très difficile. Un peu comme les labels, hein, finalement.
Donc, c'est vraiment un manque de structure qui fait que.
Oui.
Oui.
Et puis c'est bon un contexte,
et trop de groupes, trop de groupes.
Un contexte actuel qui est quand même difficile. Hein. C'est-à-dire que le nombre de salles pour accueillir en plus les concerts. Ouais. Enfin, quand je dis salle, c'est très vaste.
Ou bar, hein. Ou cabaret, ouais.
En fait,
a diminué,
le nombre
hein.
de lieux, on devrait utiliser le mot lieu, le nombre de lieux est extrêmement diminué depuis, moi qui me souviens des années 95-2000.
Depuis la loi anti-bruit.
Ouais, depuis la loi anti-bruit, et puis surtout la restructuration de la licence 5, parce ouais. que faut ça, il faut en parler aussi, hein, toute la restructuration administrative et fiscale de la licence 5 a fait un tort considérable, en fait, aux initiatives locales, parce que faut pas croire, en fait, la licence 5, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a bien envie de se lancer dans l'aventure et c'est un entrepreneur qui est à la base de ça.
D'accord.
Donc les initiatives, les entrepreneurs, les gens qui avaient envie de s'intégrer à la vie culturelle locale ont été très vite calmés. Et je trouve quand même que ça, c'est extrêmement dommageable et puis c'est terrible parce que c'est déjà pas facile. De se lancer dans c'est un petit peu un pari de se lancer dans du culturel. Alors si en plus c'est difficile à faire, si c'est contraignant, si c'est lourd administrativement, c'est un vrai parcours du combattant. Faut avoir la foi là carrément.
Ouais. Et puis bon, bah surtout le disque, il se vend plus très bien. Donc les artistes se rattrapent sur les concerts.
Sur les ventes aux concerts, ouais.
Sur les ventes des concerts et aussi, mais surtout globalement sur les concerts, c'est-à-dire que là du coup, la plupart des groupes maintenant savent que ça va être difficile pour eux de gagner des sous sur les CD. Donc maintenant tout le monde est à l'affût.
Voilà, essayer de tourner
sur tous les
festivals
et tout ça. Et donc du coup,
donc là la pression
c'est extrêmement dur.
Augmente encore
la pression
plus.
Augmente, ouais.
Ouais, la pression augmente dans le sens où on se retrouve avec peu de lieux puisqu'ils ont réduit, avec ouais. toute la demande sur en même temps sur ces lieux-là. Et en plus, maintenant, c'est vrai que les groupes ont tendance à... Des grosses têtes d'affiches, par exemple, auraient tendance à même aller dans des salles un peu plus petites.
Tout à fait, ouais.
pour avoir une tournée plus remplie.
Plus remplie.
Donc, finalement, auparavant, il y avait une espèce de hiérarchie
ouais.
dans, je dirais, l'aura des groupes et puis les salles qui les accueillaient.
Tout à fait.
Et ça, c'est en train de se déstructurer
complètement. Il y avait
des
circuits parallèles, voilà. En fait, plus ou moins, quoi.
Exactement. Et c'est vrai que ces circuits-là, maintenant, sont en pleine modification.
Ouais.
Et c'est pas simple.
Ouais, et aussi ce que tu disais par rapport justement aux pointures, à ces choses-là, donc ces choses qui veulent utiliser au maximum les autres circuits, aller dans les festivals et tout ça, avec des cachets qui peuvent être exorbitants.
Exactement.
Et qui du coup peuvent aussi pénaliser les structures moins importantes. Quoi.
Et les asphyxier, oui, bien sûr. Donc on est voilà, on est dans cette problématique là. Alors, et en même temps on n'y est pas, c'est-à-dire que nous on s'y situe pas du tout, on n'est pas une pointure, justement une affiche énorme.
Mais on est quand même signé.
On est signé
parce que ça montre bien quand ouais. même que voilà, il y a une époque quand même un groupe qui était signé, il était sûr qu'il y allait avoir quand même un suivi et puis qu'il allait trouver des concerts, je dis pas facilement mais en tout cas certainement plus facilement qu'aujourd'hui
ouais. Aujourd'hui, c'est même plus corrélé, quoi.
Non. En fait, être signé, ça n'a plus aucune conséquence. Hein. En termes de soutien.
Non, c'est vrai que nous, naïvement, avant qu'on soit signé, on croyait, oh, bah, ça y est, à partir du moment où on a trouvé un label, on va trouver des concerts tout de suite. On croyait naïvement à ça.
D'accord.
Et on a été, bon, bah, rapidement renseigné. Et on a vu que, non. Non, même un groupe signé, ça suffit pas. À moins de vraiment faire partie vraiment d'un label indépendant qui a beaucoup de moyens, qui est dans un réseau très
et qui a la volonté de le faire.
Et à la limite, indépendant, pas si indépendant que ça, parce que finalement, ouais. il y a beaucoup de labels qui se disent indépendants, mais finalement, ils font partie d'un grand groupe. Et souvent de majors. Donc voilà.
En fait, il faut des moyens. Hein. Ouais. C'est celui qui aura le plus de moyens pour balancer de la thune et communiquer.
Ils ont ce qu'on appelle le press-tour, ça s'appelle comme ça, c'est le budget qui est alloué à un groupe pour qu'il tourne,
ouais.
et c'est des sommes des fois qui sont vraiment énormes,
d'accord.
et voilà.
Ça inclut toute la logistique, etc.
Voilà.
etc.
Ouais. Et donc, bah là, en fait, bon, toutes les bases du milieu sont mouvantes, et nous, on nage là-dedans. Voilà, on se balade là-dedans et
ouais, c'est un petit peu du cas par cas.
On est tous
oui, c'est un peu du cas par cas. Et c'est vrai qu'après, maintenant, on est rentré dans une logique, sincèrement, depuis quelques années. Il faut que ça vende. Qu'est-ce qui vend? ce que certaines structures tentent de nous faire croire est porteur. Je dis bien tentent de nous faire croire parce que pour moi, tous les goûts sont dans la nature. Si on diffuse de tout, il y aura un public pour tout. Donc non, les grandes majors n'ont aucun intérêt à ce que les gens pensent comme ça. Non, il faut rétrécir un maximum. Donc il faut créer des exclusivités. Les grandes radios, ce qu'on appelle des power. Ici, on est dans le, on est bien d'accord, pas dans le power du tout. On est dans on est dans le réseau.
Meeting power.
Ferrarock, hein, le réseau Ferrarock, heureusement qu'il existe parce que bon, c'est la réponse justement aux power qui ont tendance à signer des contrats d'exclus et on a les mêmes titres en boucle toute la journée et on cloisonne et puis on rétrécit, on entonnoir, on passe dans un entonnoir toute la création musicale
tout
et on réduit ça à un tout petit fruit de robinet là, et voilà, et on fait croire aux gens que
il n'y a que ça qui existe
et puis c'est ça qui est bien.
En plus.
Le reste c'est pas bien. Donc,
surtout, c'est pas vu à la télé.
Et c'est pas vu à la télé. Enfin voilà, on est vraiment dans une logique comme ça aujourd'hui. Mmh. Alors effectivement, demander à un tourneur de s'intéresser à vous quand vous êtes taxé de musique pas porteuse. Ben, je me mets à la place. Économiquement, il faut qu'ils fassent tourner leur groupe, il faut qu'ils remplissent des salles. Ben, ils vont choisir ce qui va remplir des salles. Mais parce que il y a une loi imposée par ceux qui ont le plus de moyens. Qui veut ça, quoi. Il faut se battre contre le système, je suis d'accord, mais parfois c'est épuisant aussi.
Ouais, c'est clair.
Un peu épuisant.
Ouais. Concernant les concerts en ce moment, là, vous en avez un certain nombre pour la sortie de l'album, vous en avez déjà fait un samedi dernier. On peut en parler un tout petit peu ?
Bah, le concert de samedi dernier, c'était pour une soirée qui s'appelait Cérémonie, qui était organisée donc, par deux membres de la radio ici. Hein. Donc, Anaone, qui s'était associée à deux autres associations, une association rennaise, la Villa de Dati, et puis une association du Morbihan Clisène, pour faire une soirée, en fait, pour fêter le Nouvel An Celtique à l'occasion de la Toussaint. Et donc, il y avait un banquet, il y avait donc notre concert, et suivi d'un bal gothique. Et donc, bah, c'était l'occasion pour nous de présenter en avant-première les titres du nouvel album en live.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Et c'est vrai que c'était, c'était l'essuyage de plâtre. C'est toujours.
C'était un bon essuyage. Hein.
Ah ben, bon, on a eu des.
On en redemande.
Ah ouais, carrément. Hein. Des essuyages de plâtre comme ça.
En tout cas, on a eu des retours plutôt positifs. Mm-hmm. Pour nous, ça nous encourage. On est très très contents. Mais c'est toujours un petit peu, on est toujours dans l'appréhension quand on livre en pâture, quand on donne en pâture les nouvelles créations et le travail de plusieurs, enfin d'un an.
Ça fait 6 mois qu'on n'avait pas fait un concert.
D'accord.
Et du coup, ça nous a permis de remettre un pied dedans en vue de et pour préparer la date
du concert de décembre. Ouais, tout à fait. Et c'était la première fois en fait que les morceaux étaient joués donc en live.
Oui.
Certains, du moins.
Il y en avait deux qui avaient déjà été joués, en fait, qui appartenaient à un groupe de morceaux qu'on avait déjà composé un petit peu avant reste de l'album, qui nous ont permis d'ailleurs ces morceaux-là de démarcher auprès des labels. Donc on avait déjà interprété deux de ces titres effectivement sur scène lors de notre concert du 3 avril,
ouais.
Du 4 avril, je ne sais plus tiens, quel jour c'était.
Du 4
avril. Dernier, mais là, ouais, effectivement, on a joué la quasi-totalité de l'album. Il nous manquait 3-4 morceaux, mais on a quasiment tout joué sinon.
D'accord.
Donc, voilà, c'était un peu le voilà.
Bonjour à tous pour le concert là, du 3 voilà. décembre.
Donc oui, donc on peut l'annoncer maintenant,
tout de suite. Hein,
donc, Mediavolo au Vauban le
3 décembre.
3 décembre prochain.
C'est un mercredi.
C'est un mercredi soir. Avec Sian. On peut parler un petit peu de Sian. Je vais essayer de présenter rapidement l'artiste Sian. Milly.
Sian, en fait, on a déjà fait une date de concert avec elle. C'est comme ça qu'on l'a connue. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir bien accroché à son style musical, à savoir que c'est un petit bout de nana qui est toute seule sur scène avec sa guitare.
Et ses machines.
Ses machines, voilà. Et qui nous en envoie plein la tronche, quoi. Voilà.
D'accord.
Et donc, pour cette date du 3 décembre, elle fera la tête d'affiche avec nous. Et,
okay.
Voilà, on espère que ça va bien se passer, quoi.
Il n'y a pas de raison.
Non, il n'y a pas de raison. En plus, bon, c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui on partage vraiment une complicité. C'est quelqu'un avec qui on s'entend très très bien, avec qui on a tourné d'ailleurs hein, sur Paris et la région parisienne à la Toussaint de l'année dernière. Hein. On avait fait un partenariat. Sian est quelqu'un qui tourne beaucoup sur la région parisienne puisqu'elle a un pied à terre là-bas, elle a grandi là-bas, elle connaît très très bien la capitale. Mais c'est vrai que quand on parle d'ailleurs aux musiciens qui connaissent la capitale et qui y jouent souvent, il y a une lassitude et puis c'est une lassitude due au fait que c'est dur de jouer sur Paris. Ouais. Et c'est dur d'affronter ça seule puisqu'elle est seule. Elle est seule sur scène.
En plus.
Donc l'idée de demander à des potes musiciens de venir jouer avec elle l'avait séduite à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on c'était vraiment bien de pouvoir partager les dates comme ça. On a même joué ensemble finalement. On a partagé des morceaux. Et on a échangé sur la musique, des points de vue. On était censé se reposer après les concerts et en fait on discutait toute la nuit parce qu'on avait des tas de choses à se dire. Enfin voilà, on a vraiment fait connaissance. C'est quelqu'un avec qui on a vraiment sympathisé, partagé énormément de choses. Et puis c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup en fait, Sian, et qui a énormément de talent. Énormément de sensibilité, beaucoup de choses à dire. Donc voilà, on sera ravis de la retrouver le 3.
Et donc elle viendra donc jouer le 3 décembre et c'est pour préparer la sortie de son album qui aura lieu début 2009.
Okay.
Donc elle jouera des nouveaux morceaux de son album.
Okay. Donc on sera dans la même situation
voilà,
en fait.
Hein. Voilà.
Autant elle que nous. Voilà.
D'accord.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait l'idée. On savait plus ou moins que les dates de sortie des albums concorderaient quasiment. Donc c'était l'occasion.
Très bien. On va s'écouter un autre titre de l'album, Unaltered Empire. Je vais
prononce mieux que Rémi.
Ben alors Jacques.
je vais y réussir. Et donc, c'est le morceau dont on parlait juste un petit peu avant, c'est Dr. Quayle.